Chapitre 12. Nous arrivions alors au mois d'avril, et de jour en jour on s'attendait à lire dans les journaux que notre expédition d'Angleterre était en route. Rien ne nous manquait plus. Le seul pillage de Berne avait rapporté plus de 25 millions au directoire, soit en lingots d'or et d'argent, soit en canons, munitions et réquisitions de toutes sortes. Le docteur Schwann, de Strasbourg, ancien président du club des frères et amis et grand camarade de Chauvel, passa dans ce temps à Falsbourg et vint nous voir. Il déjeuna chez nous. C'était un savant homme, informé de tout ce qui se faisait en France et en Allemagne, non seulement pour ceux qui regardaient la politique, mais encore pour la médecine et les nouvelles découvertes en tout genre. Il nous donna le détail des forces de l'expédition et nous en fûmes bien étonnés. Nos meilleures troupes des armées du Rhin et d'Italie devaient en être, avec les plus vieux marins des côtes de Bretagne et du Midi. En outre, nos meilleurs généraux, Kléber, Dezay, Régnier, Lannes, Murat, Davout, Junot, André aussi, Caffarelli, Dufalga, Berthier, enfin, tout ce que nous avions de plus ferme, de plus éprouvé, de plus capable dans l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le génie. Schwann allait à Paris parce que l'un de ses anciens camarades, Berthollet, l'avait fait prévenir que s'il voulait être de l'expédition, il le présenterait à Bonaparte. Que déjà Monge, Geoffroy, Saint-Hilaire, Denon, Larrey, Desgenette étaient engagés avec une foule d'autres. « À quoi bon tant de savants ?» lui demandait Chauvel. Est-ce que les Anglais en manquent? Est-ce que nous allons dans un pays de sauvages?
Ma foi, je n'en sais rien, répondit Schwann. C'est inconcevable. Il faut autre chose dans tout cela, que nous ne connaissons pas.
Mais, s'écria Chauvel, si toutes nos meilleures troupes, nos meilleurs généraux et les premiers savants du pays partent, qu'est-ce qui nous restera donc en cas de malheur? Le congrès de Rastatt dure trop longtemps. Ça n'annonce rien de bon. On devrait aussi penser qu'un coup de vent comme celui de 96 peut disperser notre flotte. Que les Anglais peuvent l'attaquer en nombre supérieur et la détruire. Que pendant cette expédition, les Allemands, nous voyant sans généraux, sans vieilles troupes, sans argent, peuvent nous envahir. Ce serait d'autant plus naturel que notre invasion en Suisse et à Rome indigne toute l'Europe. Qu'on nous traite de voleurs et que le peuple de Vienne, comme nous l'avons vu hier au Moniteur, est en pleine révolte contre nous. Qu'il a cassé les vitres du palais de l'ambassade française à coups de pierre et fait tomber notre drapeau. Et c'est dans un moment pareil qu'on nous dégarnit de tout. Il ne s'agit pas ici de royalisme, de républicanisme seulement. Il s'agit de patrie. Il s'agit de notre indépendance. Ce directoire n'est donc pas français. Tout autre gouvernement, quand ce serait celui de Calonne, ne nous exposerait pas à ce danger. Et pour qui? Pourquoi? Pour donner un beau commandement à Bonaparte. Ces gens sont donc fous.
Non, dit Schwann, mais la place de directeur est bonne à prendre, et si Bonaparte reste, il n'y aura bientôt plus de place que pour lui.
Chauvel ne dit plus rien. Il savait cela depuis longtemps. Et Schwann, ayant suivi sa route pour tâcher de s'embarquer aussi, nous attendîmes le départ de l'expédition avec une sorte d'inquiétude. La masse des troupes se réunissait à Toulon. Le mouvement à l'intérieur et le long des côtes était immense. On dégarnissait Gênes, Civitavecchia. Nous n'étions pas sûrs si la 51e n'allait pas être aussi de l'entreprise. Les gazettes criaient qu'il faudrait livrer bataille, que les Anglais gardaient le détroit de Gibraltar. Brune venait de recevoir le commandement de l'armée d'Italie. De notre côté, rien ne bougeait. Tous les yeux regardaient là-bas. Et tout à coup, le 26 ou le 27 mai 1798, on apprit que la flotte avait levé l'ancre et qu'elle était en route pour l'Égypte. Les proclamations arrivèrent.
« Allons, dit Chauvel, le citoyen Bonaparte aime mieux combattre quelques poignées de sauvages en Égypte que les Anglais. Je vois, mon pauvre Michel, que la vraie campagne sera par ici, sur le Rhin, comme en 1792 et 93. Qu'avons-nous à faire en Égypte? Il est vrai que 5 ou 6 brigands fameux, Cambyse, Alexandre, César et Mahomet, se sont donné rendez-vous dans ce pays. C'est en quelque sorte leur patrie. Comme la patrie des tigres, c'est le Bengale. Ils tournent tous les yeux de ce côté et ne sont bien que là. Mais notre intérêt à nous, l'intérêt de notre république en Égypte, je ne la vois pas. Nous avons déjà bien assez de mal à nous soutenir en Europe contre toutes les monarchies, sans nous mettre encore le grand Turc sur les bras. Et prenant une des cartes que nous vendions, il restait penché dessus durant des heures. D'autres patriotes venaient le voir et causaient avec lui de l'expédition. Déjà le bruit se répandait que nous allions attaquer les Anglais aux Indes. C'était la pensée de Raphaël Manck et du vieux Toubac, l'ancien maître d'école de Diemeringen. Les journaux disaient aussi que nous allions aux Indes, le pays d'où l'on tire le poivre et la cannelle. Chauvel, les lèvres serrées, ne riait pas en écoutant ces affreuses bêtises. Seulement, il criait d'un air de désolation. « Que les peuples sont bornés, mon Dieu! Quel affreux malheur !» Un jour, Toubac, un gros bouquin allemand sous le bras, vint nous raconter que le pays du poivre et de la cannelle était aussi celui des diamants et des mines d'or. Qu'il avait découvert ça dans son livre. Il nous montrait du doigt le passage et s'écriait. « Comprenez-vous maintenant, citoyen Chauvel, comprenez-vous pourquoi Bonaparte veut aller aux Indes ?»«
Oui, » lui dit Chauvel indigné, « je comprends que vous, et malheureusement beaucoup d'autres, vous êtes des ânes qu'on mène par la bride, en attendant l'occasion de leur mettre un bât sur le dos. Savez-vous la distance de l'Égypte aux Indes? Elle est de plusieurs centaines de lieues à travers des fleuves, des montagnes, des déserts, des marais et des peuplades plus sauvages que nos loups. Rien que pour aller de l'Égypte à la Mecque, ce qui ne fait pas la moitié du chemin, les Arabes, sur leurs chameaux, passent des semaines et des mois. Il en périt de faim, de soif et de chaleur. Un tel nombre que leurs ossements marquent leur route à travers les déserts. Et vous croyez que Bonaparte ne sait pas cela, qu'il n'a pas regardé la carte et qu'il veut aller aux Indes chercher de la poudre d'or et des diamants? Non, Toubac, il sait ces choses mieux que nous. Mais il prend la masse du peuple pour une espèce d'engrais nécessaire à faire pousser les généraux. Et je commence à croire qu'il n'a pas tort. Depuis que la constitution de l'an 3 sépare les intérêts du peuple de ceux des bourgeois, le peuple n'a plus la tête et les bourgeois n'ont plus de cœur ni de bras. C'est entre eux que pousse le pouvoir militaire, qui fera périr les uns et les autres. Si Bonaparte voulait attaquer les Anglais, il n'avait pas besoin d'aller si loin. Il n'avait qu'à passer le détroit. Les Anglais l'attendaient de leur côté, à 15 ou 20 lieues de chez nous, aussi bien que dans les Indes. Sans compter qu'il pouvait leur faire terriblement plus de mal chez eux qu'à l'autre bout du monde. « Mais, » s'écria Toubac, « alors, qu'est-ce qu'il va donc faire en Égypte ?»«
Il va faire parler de Bonaparte. Il va tranquillement, avec nos meilleures troupes et nos meilleurs généraux, attaquer des gens qui n'ont ni fusils, ni munitions, ni organisation. Il les écrasera, cela va sans dire. Il enverra des bulletins magnifiques. On parlera de lui. C'est tout ce qu'il veut en attendant mieux. Pendant ce temps, nous autres, nous aurons des armées de 100 et 200 000 hommes, de bonnes troupes sur les bras. Nous appellerons le banc et l'arrière-banc de la jeunesse pour sauver la patrie. Si nous obtenons le dessus, les envieux crieront pour rabaisser Jourdan, Bernadotte ou Moreau. Victoire en Égypte, victoire, vive Bonaparte, l'invincible. Si nous éprouvons quelques échecs, comme c'est probable, n'ayant plus guère de vieilles troupes, Bonaparte, sur sa flotte, viendra sauver la République et les flagorneurs crieront « Victoire, victoire, vive Bonaparte, l'invincible !» Les envieux se tairont. Ce sont des lâches et Bonaparte, vainqueur, leur fermera la bouche tout de suite, car il sera le maître. Il aura chez nous le poivre, la cannelle,
les diamants, les mines d'or et ne s'inquiétera plus des Indes. Je vous en réponds. »
Toubac ouvrait de grands yeux et bégayait.
« Ah, oh, je comprends. »
Et qu'on ne se figure pas que Chauvel, seul, avait la clairvoyance de ces choses. Des milliers d'autres voyaient aussi clair que lui. Tous les vieux jacobins disaient « Bonaparte est un ambitieux. Il ne pense qu'à lui. Nous sommes volés. » Mais de voir ce qui se passe et de se mettre en travers du courant, cela fait une grande différence. On a des intérêts. On veut se marier. On est père de famille. On se rappelle les bassesses et les trahisons de tous les partis. Et l'on s'écrie « Bah, qu'est-ce que cela me fait ?» S'il est le plus fort, le plus rusé, si le peuple, le directoire, les conseils, les généraux se mettent à plat ventre devant lui, à quoi me sert de rester debout? On m'écrasera, et pour qui? Pour des égoïstes, des lâches qui diront « c'était un fou » et qui profiteront sans honte de mes dépouilles. Moi mort, mes enfants traîneront la misère. Il faut se soumettre. Ceux qui se sacrifient pour la justice et les droits de l'homme sont des bêtes. On ne leur en a point de reconnaissance. Plusieurs ajoutent « Mettons-nous avec les flagorneurs. Nous aurons des places, des honneurs, des pensions, et nos descendants vivront grassement aux dépens de ceux qui sont trop fiers pour se traîner sur les genoux. » Mais continuons, car tout cela n'est pas gai quand on y pense. Après le départ de Bonaparte, durant quelques jours, il ne fut question que des affaires du pays, de l'occupation, du Haut-Valais par nos troupes, de la nomination de Bernadotte comme ambassadeur en Batavie, mais tout le monde pensait à la flotte, au danger de la mer, à la poursuite des Anglais, qui ne pouvaient manquer de nous livrer bataille. Aucune nouvelle n'arrivait. Ce grand silence, en songeant à tant de 1000 hommes et de bons citoyens hasardés dans une pareille entreprise, vous serrez le cœur. On parlait des recherches de nos commissaires à Zurich pour découvrir de nouveaux trésors, de la sortie des ports de Crimée d'une flotte russe de 12 vaisseaux et de 14 frégates pour attaquer la nôtre en route, du blocus par les Anglais de la rade de Flessinge, de l'arrestation du citoyen Flick, rédacteur de la Gazette du Haut-Rhin, par ordre de Schauenbourg, général en chef de notre armée en Suisse. Et d'autres choses pareilles, sans grande importance, après tous les mouvements, toutes les agitations qui nous tourmentaient depuis si longtemps. Et de la flotte, rien. Toujours rien. Rapina seul faisait alors autant de bruit et tenait autant de place dans les gazettes que Bonaparte. Il n'avait jamais assez d'argent et les Suisses criaient comme une poule en train de pondre. Mais l'idée de la flotte, dont personne n'apprenait rien, vous rendait inquiet. Enfin, le 8 juillet, 6 semaines après le départ de Toulon, on apprit que notre expédition s'était rendue maîtresse de Malte et que cela ne nous avait coûté que 3 hommes, que le ministre russe, avec 80 commandants de Malte, avait reçu l'ordre d'évacuer l'île sous 3 jours, ce qui nous fit penser que nous pourrions bien avoir bientôt les Russes sur le dos, avec les Autrichiens et les Anglais. Les conférences de Rastatt continuaient toujours. On nous avait cédé la rive gauche du Rhin et livré Mayence en échange de Venise, mais nos plénipotentiaires demandaient encore Köln et Cassel sur la rive droite. Ils demandaient aussi la démolition d'Arenbreitstein, que nos troupes continuaient de bloquer pendant les conférences. Les Allemands, de leur côté, ne voulaient pas consentir à l'abolition des biens nobles et des biens ecclésiastiques sur la rive gauche, que l'Autriche nous avait déjà cédé. Nous aurions eu 2 espèces de lois dans la République, celle d'avant et celle d'après 89, chose contraire au bon sens. En outre, il fallait régler les droits de péage et des douanes, l'établissement de nouveaux ponts entre les 2 Brisacs, et tout cela traînait tellement en longueur qu'on n'en voyait pas la fin. Comme ces affaires se réglaient à quelques lieues de chez nous et que l'abolition des anciens droits de péage, la libre navigation du fleuve, le partage des eaux et des îles devaient profiter à notre commerce, toute l'Alsace et la Lorraine y prenaient part. Bonaparte n'avait pas voulu s'en occuper. C'était de trop petites affaires pour un si grand génie. Sa vue s'étendait alors aux Indes. Metternich, un des plus grands finauds de l'Allemagne, tenait tête à nos plénipotentiaires. Le congrès se prolongea toute cette année. À chaque instant, le bruit courait que les conférences étaient rompues. Cette fameuse paix de Campo Formio, la gloire du général Bonaparte, ne valait pas la belle armée, la belle flotte et la masse de généraux qui l'avaient emmenée. Qu'est-ce qu'une paix sans force pour la soutenir ? Aussi le directoire n'avait pas l'air de s'y fier beaucoup. Le rétablissement de l'impôt sur le sel, la création de contributions sur les portes et fenêtres, l'autorisation qu'il venait d'obtenir des conseils de vendre encore pour 125 millions de biens nationaux, le décret que les conseils avaient rendu sur le rapport de Jourdan qu'on recruterait à l'avenir nos armées par la conscription forcée des citoyens de 20 à 25 ans, tout montrait qu'il fallait des hommes et de l'argent bien vite. Ce n'est pas en se conduisant avec bassesse qu'on peut compter sur l'enthousiasme de la nation. Le directoire le savait bien, le temps des volontaires et des sacrifices patriotiques était passé. Quand le peuple n'est rien dans la Constitution, il faut le conduire, se battre, la corde au cou. La patrie, c'est alors l'homme qui remporte des victoires et vous fait des pensions. De jour en jour et de semaine en semaine, 30 000 familles attendaient des nouvelles d'Égypte. On commençait à croire que tout était englouti. Quand le 19 septembre 1798, 4 mois après le départ de l'expédition, on lut dans le Moniteur que le général Bonaparte, après avoir débarqué le 23 Messidor à Alexandrie, avait fait un traité d'amitié avec les chefs arabes, qu'il avait dirigé ses colonnes vers le Caire, où il était entré le 5 Thermidor à la tête de l'Égypte, et qu'enfin, maître de toute la basse Égypte, il continuait sa marche, que l'escadre de l'amiral Bruet, mouillé sur la côte d'Aboukir, se disposait à retourner en France, lorsqu'une escadre anglaise, supérieure à la nôtre par le nombre et le rang de ses vaisseaux, l'avait attaqué, que de part et d'autre le combat s'était soutenu avec une opiniâtreté sans exemple dans l'histoire, que pendant l'action le vaisseau amiral avait sauté, que 2 ou 3 autres avaient coulé, que d'autres, tant anglais que français, avaient échoué sur la côte, et qu'enfin d'autres vaisseaux français étaient restés totalement désemparés sur le champ de bataille. Je n'ai pas besoin de vous peindre la figure des gens en lisant cet article. « Tout cela, dit Chauvel, signifie que nous n'avons plus de flotte, que notre meilleure armée est à 600 lieues d'ici, sur les sables, au milieu des Arabes et des Turcs, sans aucun moyen de revenir en France, ni de recevoir des secours, et que les Anglais, les Italiens et les Allemands vont tirer profit de l'occasion pour nous accabler ensemble. Pendant la Constituante, la Législative et la Convention, nous n'avons vu que la première coalition. Nous allons voir la seconde. Nous allons jouir des bienfaits du citoyen Bonaparte. » Peu de temps après cette terrible nouvelle, on sut que le fameux Nelson, en revenant d'Aboukir avec sa flotte, avait été reçu par le roi de Naples à bras ouverts, qu'il avait réparé ses vaisseaux dans le port et passé son temps au milieu des fêtes et des triomphes. Bientôt, on apprit que les Russes traversaient la Pologne et que le roi de Naples attaquait la République romaine, que le Piémont et la Toscane se mettaient en insurrection. Championnet, qui commandait à Rome, partit à la rencontre des Napolitains. Il battit et poussa ses misérables troupes jusqu'à Naples. Des quantités de mendiants, qu'on appelle des Lazzaroni, sortirent de la ville à leur secours. Championnet fut obligé de mitrailler cette canaille et de mettre le feu dans ses bicoques. Le père Gourdier, qui se trouvait là, m'a raconté plus tard que ces êtres abrutis dorment en plein soleil sur les marches des églises et qu'ils se nourrissent d'un peu de macaroni. Je le crois. C'est à cet état que nos anciens rois, nos seigneurs et nos évêques auraient voulu nous réduire, pour vivre sans crainte. La fierté de l'homme, l'instruction, le courage, tous les gênes. Sous de pareils maîtres, le genre humain tomberait tout doucement à l'état de limace, de chenille et de lazzaroni. Qu'est-ce que cela leur ferait ? Ils seraient alors tranquilles, et la profonde misère, l'abaissement de leurs semblables, ne les empêcherait pas de se dire les représentants de Dieu sur la terre. Enfin, ces lazzaroni furent balayés solidement, et le roi Ferdinand, qui représentait leur bon Dieu, la reine de Naples, sœur de Marie-Antoinette, qui nous haïssait jusqu'à la mort, toute cette cour se sauva lâchement, emportant ses trésors et laissant les mendiants défendre leur vermine comme ils pourraient. Alors Championnet créa la République parthénopéenne. Cela faisait la cinquième que nous créions en Italie, toutes aussi solides les unes que les autres. Pendant que Championnet marchait sur Naples, le directoire, pour empêcher le roi de Sardaigne d'inquiéter ses arrières, avait envoyé l'ordre à Joubert d'envahir le Piémont. Le roi s'était sauvé dans l'île de Sardaigne. Nous avions occupé toutes les places fortes, incorporé son armée dans la nôtre, et nous restions maîtres de tout ce pays, depuis les Alpes jusqu'à la mer de Sicile. Nous étions alors en décembre. Ainsi finit l'année 1798.